Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le M23 et l'armée rwandaise accusés d'avoir commis des crimes de guerre lors de la prise et de l'occupation d'Uvira entre décembre et janvier dernier. C'est ce qui ressort d'un rapport de Human Rights Watch publié hier. Au Congo central, à peine réhabilité par la Cour constitutionnelle, Papi Mantezolo, qui récupère son poste à la tête de l'Assemblée provinciale, rejette tous les actes posés par le bureau qui a travaillé pendant son absence, se considérant comme illégal. Au Kassai oriental, les membres de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité ont mené en plaidoyer auprès du gouverneur de province afin de promouvoir une participation accrue et effective des femmes dans les instances décisionnelles et le processus de paix. Nous en parlons avec notre invité, Maître Martin Ndaya, point focal de la synergie au Kassai oriental. Madame, Monsieur, bonjour. Le groupe armé M23 et les forces rwandaises de défense ont commis de nombreuses violations graves du droit international humanitaire, dont beaucoup constituent des crimes de guerre lors de la prise et de l'occupation de la ville d'Uvira au sud Kivu entre le 10 décembre 2025 et le 17 janvier 2026. C'est ce qu'indique un rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch publié hier mercredi. Uvira est tombé aux mains du M23 et des forces rwandaises quelques jours seulement après la signature de l'accord de paix négocié par les États-Unis entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. L'accord aurait été un catalyseur du retrait soudain de ses forces un mois plus tard, précise le rapport. D'autres détails avec Alain Rung.
Les conclusions de Human Rights Watch s'appuient sur les premières recherches menées sur le terrain à Uvira depuis le départ du M23. Human Rights Watch a mené des entretiens en personne et à distance avec plus de 120 survivants et témoins d'abus proches des victimes et sources diverses à propos des meurtres illégaux, des exécutions sommaires, des viols et autres violences sexuelles, des enlèvements et du recrutement forcé des civils pendant l'occupation. Dans plusieurs incidents sur lesquels Human Rights Watch a enquêté, des combattants du M23 et des soldats rwandais ont procédé à des exécutions sommaires lors des fouilles de maison en maison ou après avoir enlevé des personnes à leur domicile. Bon nombre des personnes enlevées sont toujours portées disparues. Des témoins ont relaté que le M23 et les forces rwandaises ont ouvert le feu sur des groupes de civils qui s'enfuyaient vers le Burundi voisin ou vers les collines surplombant la ville. Selon le rapport, à moins qu'il n'y ait une comptabilisation exhaustive des crimes commis et des actions concrètes de la part des autorités congolaises et rwandaises, avec un soutien international, les abus qui ont eu lieu à Uvira sont susceptibles de se reproduire ailleurs, laissant les civils dans l'est de la RDC exposés à de nouveaux préjudices graves.
Et en Ituri, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées hier mercredi par l'armée à Kunda, village situé à environ 40 km à l'ouest de Bunia, territoire d'Irumu. Selon des sources sécuritaires, la présence de ces civils en provenance du sud Kivu dans cette entité suscite des inquiétudes de sécurité dans cette région. Des activistes locaux de droits humains souhaitent que ce dossier soit traité en respectant les principes fondamentaux des droits de l'homme. Martial Kizabiamungu.
Ces civils à majorité de jeunes à provenance du site Kivu sont arrivés à Kunda progressivement pour être utilisés comme une main-d'œuvre dans les activités champêtres et orifères. Selon des sources sécuritaires, ils sont soupçonnés d'appartenir à des groupes subversifs. La même source ajoute que leur présence dans cette région affectée par des conflits des groupes armés suscite plusieurs inquiétudes sécuritaires. Ces suspects ont été transférés dans un camion militaire ce jeudi matin vers Bunia à l'état-major de la 32e région militaire au quartier Opassi où ils seront auditionnés. Ce matin, des activistes locaux des droits humains et acteurs de la société civile demandent aux services de sécurité de respecter les droits à la présomption d'innocence de ces personnes. Ils insistent sur le respect des principes fondamentaux des droits de l'homme dans la procédure de leur audition et que les innocents soient relâchés. Bunia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Et dans la ville de Beni, au nord Kivu, les activités ont tourné au ralenti ce matin. À l'initiative de mouvements citoyens et groupes de pression, l'appel à une journée sans activité a été plutôt bien suivi. C'est pour dénoncer la montée de la criminalité urbaine ainsi que les attaques des ADF dans les territoires de Beni et de Mambasa. Les organisateurs appellent le gouvernement à lancer des opérations militaires contre ces rebelles et à organiser des audiences foraines pour juger les présumés auteurs des actes criminels. Aucun incident n'a été signalé au cours de cette matinée. Des forces de l'ordre ayant été déployés dans plusieurs points stratégiques de la ville pour prévenir tout débordement. En plus, des détails avec Marc Marofimbo.
Boutiques et maisons de commerce fermées, activités socio-économiques paralysées. La ville de Beni a tourné au ralenti ce jeudi matin à l'appel des jeunes, des mouvements citoyens et des groupes de pression. Cette journée visait à dénoncer la recrudescence de la criminalité urbaine et des attaques des rebelles des ADF dans les territoires de Beni et de Mambasa. Selon les manifestants, au moins 8 meurtres ont été enregistrés en moins d'un mois dans la ville de Beni, impliquant des hommes armés parmi lesquels des militaires déjà aux arrêts. Ils pointent du doigt, je cite, l'inefficacité des forces de sécurité face à la progression des ADF qui a contraint plusieurs habitants à fuir leur village. Ces jeunes exigent ainsi des opérations militaires contre les ADF, mais aussi des audiences foraines pour juger les présumés criminels. Ils dénoncent également les tracasseries aux barrières de Mukulia, Mavivi, Paida et Pasisi et demandent leur suppression. Malgré la tension, aucun incident n'a été signalé. Il faut dire que les forces de l'ordre étaient déployées en grand nombre à travers la ville pour prévenir tout débordement. La circulation est toutefois restée timide à plusieurs endroits de la ville. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Aux États-Unis, une proposition de loi démocrate baptisée Stable DRC Act a été déposée le 7 mai dernier à la Chambre des représentants. Le texte vise à renforcer l'arsenal juridique de Washington afin de sanctionner toute entité ou acteur accusé de compromettre les accords de paix entre la RDC et le Rwanda. Précision avec Martial Papimukeba.
Le texte est porté par le député démocrate Johnny Olzewinski, membre de la sous-commission Afrique de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Il prévoit un ensemble de mesures restrictives, notamment le gel des avoirs, l'interdiction d'entrer sur les territoires américains, ainsi que la révocation des visas déjà délivrés. Au-delà des sanctions individuelles, cette proposition de loi définit également la ligne politique américaine dans la région. Elle réaffirme la reconnaissance de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et du Rwanda, tout en qualifiant les conflits dans l'est de la RDC des menaces pour les intérêts stratégiques des États-Unis en Afrique centrale. Le texte place également les sanctions au cœur de la stratégie de soutien aux accords de Washington signés entre la RDC et le Rwanda. Pour l'heure, il a été transmis à la Commission des Affaires étrangères ainsi qu'à la Commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis, mais n'a pas encore été adopté. En mars 2026, les États-Unis avaient déjà imposé des sanctions directes contre l'armée rwandaise RDF et quatre de ses hauts responsables accusés de soutenir l'AFC M23.
Réhabilité le 7 mai dernier par la Cour constitutionnelle à son poste de président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papimante Zolo a déclaré hier mercredi lors de sa première communication devant la presse à Matadi que tous les actes opposés par le bureau qu'il considère comme illégal sont nuls et de nul effet. Destitué le 7 octobre dernier à la suite d'accusations présumées de détournement de deniers publics, il a été réinstallé quelques heures seulement après la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Papimante Zolo affirme désormais vouloir corriger les erreurs qui lui sont et travailler au service de la population du Congo central. Il s'exprime dans cet extrait sélectionné par Élise Kavira.
Nous venons reprendre les perchoirs, non pour un combat retour, mais justement pour la continuité. Nous ne pensons pas qu'il est temps de venir se battre dans cet hémicycle. Nous continuerons à exercer comme l'église au milieu du village. Cependant, nous avons connu quand même un long moment. Plusieurs collègues ont formulé des plaintes. Lorsqu'on dirige, on commet aussi des erreurs. Nous allons nous amender enfin de travailler pour les comptes du peuple. Si vous pouvez comprendre, les recettes du Congo central ont drastiquement baissé à cause des batailles qui ne donnent pas de fruits. Nous pouvons contrôler, mais nous ne pouvons pas assassiner notre propre province. Et aujourd'hui, j'annonce à la presse, considérez qu'il n'y a jamais eu un autre bureau. Jusqu'à preuve du contraire, selon l'esprit de l'arrêt, tous les actes posés par les bureaux illégaux sont des nuls et des nuls effets. Par conséquent, notre bureau va examiner les réquisitoires du procureur et la plénière décidera si oui ou non faut-il répondre positivement ou négativement.
Le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, Guilain Panzou, affirme que l'équipe dirigeante accepte sportivement le retour du président réhabilité et appelle cependant à l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, afin que dans le respect de l'esprit de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, l'actuel bureau soit maintenu malgré le changement à la présidence de l'Assemblée provinciale. Cependant, cette position n'est pas partagée par d'autres membres de l'actuel bureau de l'Assemblée qui promettent à leur tour de saisir la justice. Dans la province du Maniema, le coordonnateur provincial de l'École nationale de cadastre déplore le faible taux de participation des apprenants. Cette préoccupation a été présentée au public hier mercredi 13 mai à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des géomètres. Dans son discours, Jacques Sélémanimo qui a indiqué que depuis la création de l'école en 2013, 8 promotions ont été organisées, mais seulement 42 géomètres ont été formés. Et cette année, l'établissement ne compte que 17 apprenants. Il lance ainsi un appel aux parents afin d'inscrire leurs enfants à l'École nationale de cadastre. Il souligne également que cette formation est essentielle pour le développement de la province ainsi que pour leur avenir. Florence Kizalunga nous en parle.
La province du Maniema étant confrontée à de nombreux conflits fonciers, Sélémane Mouké a insisté sur l'importance de disposer des géomètres qualifiés.
Actuellement, nous sommes 8e promotion, mais nous avons seulement 42 géomètres que nous avons déjà délégués, que nous avons lancés dans l'ensemble de la province du Maniema. Au moment où nous comptons 8 circonscriptions foncières, à Lobutu, il n'y a pas de géomètres. À Karimé, il n'y a pas de géomètres. Pougna, partout là-bas. Alors, nous avons encore besoin de géomètres. C'est dit que je lance mon appel à tous les parents.
Représentant l'autorité provinciale lors de la cérémonie, le directeur du cabinet du gouverneur, Amissi Mutumoko, a invité le responsable de l'école à intensifier les actions de sensibilisation.
Nous encourageons l'École nationale du cadastre à faire beaucoup de vulgarisation au sein de la ville pour que les gens connaissent son existence et les options, disons les finalités et même les débouchés. Les jeunes peuvent accéder grâce à cette formation. Effectivement, elle est nécessaire. La géométrie assistée par ordinateur va nous aider à réduire beaucoup de conflits.
Signalons que cette école existe au Maniema depuis 2013. Kindu, Florence Kizalunga. Lunga, Radio Kapi.
Donner aux jeunes du Kasaï central les compétences nécessaires afin qu'ils deviennent créateurs d'emplois, c'est l'objectif principal de la formation en entrepreneuriat organisée par le Conseil provincial de la jeunesse. Elle a débuté hier mercredi. Plus de 400 participants y prennent part. 6 assises sont organisées sous le thème « Entrepreneuriat pratique, de l'idée à la création d'entreprises ». Le point avec André Katendengalamouloumé.
Près de 470 jeunes prennent part à cette formation en entrepreneuriat. Face au chômage qui touche de nombreux jeunes en RDC, les participants affirment vouloir se tourner vers l'entrepreneuriat afin de créer leurs propres activités génératrices des revenus.
La formation va m'aider, vu aussi que notre pays, il n'y a pas d'emploi. Je dois connaître comment créer des emplois pour ne pas surtout aller chercher des emplois ailleurs.
On n'a pas beaucoup de travail ici chez nous au Kasaï central. On peut aussi inventer le travail de nous-mêmes.
Le président du Conseil provincial de la jeunesse, Emmanuel Kabangou, explique que cette initiative vise à renforcer les capacités de jeunes en matière d'entrepreneuriat afin de favoriser leur autonomisation.
L'objectif de la formation, c'est de préparer les jeunes du Kasaï central à ne pas attendre le matricule, mais d'aller affronter le monde des opportunités.
Cette formation se poursuivra jusqu'au mardi 19 mai prochain. Kananga, André Katendengalamouloumé, Radio Kapi.
Et puis cette annonce, le lac Tanganyika sera fermé aux activités de pêche pendant la période allant du 15 mai jusqu'au 15 août. Ainsi en a décidé le ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage du Tanganyika. Cela est conforme aux prescrits de la charte régionale des États membres de l'autorité du lac Tanganyika. L'objectif est de permettre la reproduction des poissons. Cependant, cette mesure ne fait pas l'unanimité, notamment chez les pêcheurs. Explication Paul Amunanga.
La fermeture du lac Tanganyika pour une période de 3 mois inquiète les pêcheurs et les détenteurs des unités de pêche. Ils indiquent que cette décision nécessite des mesures d'accompagnement. Dans le cas contraire, il y aura des conséquences du fait que la pêche est l'activité principale de la population du Tanganyika, préviennent les pêcheurs. Un délégué des pêcheurs s'exprime. Si l'État décide de fermer le lac Tanganyika, toute cette population va vivre comment? À Kalemi, il y a crainte qu'il y ait la famine et la recrudescence du banditisme. Pour le ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage du Tanganyika, la charte régionale des États membres de l'autorité du lac ne prévoit aucune mesure d'accompagnement en cas de la fermeture du lac Tanganyika. Raphaël Mpungwe.
La charte telle qu'elle a été définie ne parle à aucun paragraphe, à aucun article de mesures d'accompagnement. Mais il faut savoir que les 4 pays, lorsqu'ils ont signé cette charte, ont été accompagnés par un bailleur de fonds, à l'époque l'Union européenne, qui ont créé un projet. projet qui accompagnait les quatre pays dans l'application de ces mesures.
Rappelons qu'il y a quelques années, la mesure de fermer le lac Tanganyika n'avait pas été appliquée. La population et les pêcheurs s'étaient farouchement opposés. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La justice nigériane a condamné mercredi l'ancien ministre de l'énergie Saleh Maman à 75 ans de prison pour détournement de fonds et blanchiment d'argent liés à des projets hydroélectriques. Selon la commission nigériane des crimes économiques et financiers, l'ex-ministre a été reconnu coupable d'avoir blanchi près de 33,8 milliards de nairas, soit environ 24,6 millions de dollars américains. La décision a été rendue mercredi par la Haute Cour fédérale d'Abuja.
L'invité.
Au Kassai oriental, les membres de la Synergie des femmes pour la paix et la sécurité ont mené un plaidoyer auprès du gouverneur de province afin de promouvoir une participation accrue et effective des femmes, en particulier des jeunes femmes, dans les instances décisionnelles et dans les processus de paix. Lors de cette rencontre, Maître Marc Tondaya, point focal de la Synergie au Kassai oriental, a présenté le plan d'action stratégique visant à renforcer l'implication des femmes. Elle s'entretient à ce sujet avec Esther Dalafina.
Bonjour, Madame Berthe Ndaya.
Bonjour, Mme Esther.
Pouvez-vous nous présenter brièvement la Synergie des femmes pour la paix et la sécurité et sa mission principale?
La Synergie des femmes pour la paix et la sécurité est un réseau de structures féminines qui vise à renforcer la participation active des femmes dans le processus de paix, médiation, réconciliation, sécurité, mais aussi la lutte contre les violences basées sur le genre, la protection. En fait, le suivi des quatre piliers de la résolution 1325.
Quel est l'objectif principal du plaidoyer que vous avez mené auprès du gouverneur de province?
L'objectif de notre plaidoyer était de présenter les plans d'action faits lors du forum national, terme aussi des plaidoyers aujourd'hui visé à ce que dans notre province, qu'il y ait un renforcement de l'intégration de la femme dans les postes de prise de décision.
Pourquoi ce plaidoyer est-il particulièrement important dans le contexte du Kassai oriental?
Dans le contexte du Kassai oriental, la femme a été longtemps marginalisée, fragilisée dans ses actions. Parmi les postes de prise de décision, nous avons trouvé que les pourcentages étaient très moindres. On parle de 10%, alors nous avons vu l'autorité pour que, en tant que père de famille, qu'il puisse un peu revoir l'augmentation progressive de la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Là, nous avons demandé à l'autorité de revoir jusqu'au même à 50, bien sûr, telle que la résolution 1325 le prévoit, et même aussi les différents tests juridiques nationaux, internationaux, ainsi que régionaux, là que la RDC fait partie prenante.
Quels sont les axes prioritaires du plan d'action stratégique que vous avez présenté au gouverneur?
Nous avons présenté plusieurs axes, notamment le droit des femmes, la participation des femmes dans les instances de prise de décision, la participation des femmes dans l'instauration de la paix et la sécurité, à la lutte contre les violences basées sur le genre.
Maître Marthe, qu'attendez-vous concrètement du gouverneur de province?
Nous avons demandé à l'autorité de prendre d'abord en compte les besoins des femmes, ce que nous lui avons apporté comme défi ou obstacle que les femmes rencontrent dans notre province. Alors, comme père de famille et aussi garant du pouvoir au niveau de notre province, il a promis qu'il va s'y atteler. Et d'ailleurs, nous profitons de l'occasion de remercier l'autorité puisqu'il a encore nommé des femmes dans les ministères au niveau de notre province et aussi une femme au niveau de la régie financière des GERCOR ici en province. Et nous remercions beaucoup l'autorité puisque c'est une première.
Comment les femmes et les jeunes femmes ont-elles été impliquées dans l'élaboration de ce plan?
D'abord, il y a eu des réunions en ligne avec toutes les représentantes de toutes les 26 provinces de la RDC dont nous avons fait partie pour le compte de la province du Kassai oriental. Et ce forum a été organisé. Toutes les provinces ont pris part, toutes les mamans ont pris part. Quand il y a une seule maman qui prend part au nom de la province, elle a pris part au nom de toutes les femmes. Et la restitution a été faite, mais aussi la suite des activités. Nous croyons que l'intégration sera facile et rapide.
Quels sont les défis majeurs que vous avez rencontrés dans ce plaidoyer?
Les grands défis que nous avons rencontrés ou que les femmes rencontrent c'est la moindre participation des femmes dans les instances de prise de prise de décision, ainsi que des préjugés. Les femmes sont butées à des violences sexuelles, des violences basées sur les gens, mais aussi des pratiques coutumières jugées inappropriées, surtout pour la femme est-kassaïenne.
Quel message, madame, souhaitez-vous adresser aux autorités et à la population?
Nous souhaitons que nos autorités puissent intégrer les demandes des mamans, les demandes des femmes, puisque les compétences féminines au niveau du Bassin oriental ne manquent pas. Il y a des femmes compétentes scientifiquement, des femmes compétentes à tous les niveaux. Et nous attendons des autorités d'intégration de tous les postes de prise de décision. Mais aussi aux femmes, nous leur demandons de ne pas baisser les bras, de persévérer, parce que les droits, on les réclame.
Maître Marthe Ndaya, merci.
Merci beaucoup.
En tout cas, c'est une interview réalisée pendant la pause, hein, pause de midi, pendant cette formation, là d'où le bruit des assiettes et autres. Voilà, nous avons écouté Maître Marthe Ndaya, point focal de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité au Kasaï oriental. Merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Alain Rung, ainsi qu'Élisée Chikota Chivuita avec André Mongo à la technique et Babel Pongo Massimango à la présentation. Bon après-midi.